Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Pour votre journal des idées, vous revenez sur l'attentat, l'attaque à Strasbourg avant-hier, qui a déjà déclenché toute une série de commentaires, analyses et témoignages. Dans des registres différents, Jacques, tous ces discours contribuent à en faire un événement.
Oui Clara, c'est ainsi d'ailleurs qu'il se distingue du fait divers. Une action violente est dénommée terroriste lorsque ses effets psychologiques sont hors de proportion avec ses résultats purement physiques. C'est Raymond Aron qui écrivait cela en 1962 dans « Paix et guerre entre les nations ». La dernière livraison de la revue « Mots, les langages du politique » publiée par ENS Éditions est consacrée au discours post-attentat. La dimension psychologique, émotionnelle et compassionnelle est évidemment une donnée importante de la mise en récit de l'événement. Mais les auteurs du dossier relèvent également dans la profusion des discours politiques et médiatiques l'expression plus large d'un appel à la conscience nationale, à son unité et désormais à sa capacité de résilience. On pourrait se demander si tout ce déploiement discursif n'est pas une forme de coproduction de l'événement terroriste, mais ce n'est pas l'objet des chercheurs en sciences du langage, de l'information et de la communication. Dans leurs contributions, Pierre Lefébure, Émilie Roche et Claire Sécaille ont analysé le traitement médiatique des attentats du 13 novembre 2015. En l'occurrence, la sauvagerie des attaques, le nombre élevé de victimes, le choc et le traumatisme durable engendré suffisaient à en faire un événement en soi. Mais les modalités du discours qu'il a suscité peuvent être observées comme des constantes du genre. La mise en série d'abord, survenue après l'attentat de Charlie Hebdo, les massacres du Bataclan et des terrasses de café s'inscrivent dans un récit au long cours que certains journalistes ont fait remonter dans leurs commentaires aux attaques contre le World Trade Center du 11 septembre 2001, ceux notamment qui étaient en poste à Washington à l'époque. Du coup, l'interprétation en termes de causalité sur le mode « on le savait » s'impose eu égard aux engagements géostratégiques de la France susceptibles de provoquer des représailles ennemies. D'où le recours à la syntaxe guerrière censée consolider la cohésion nationale et ajouter du sens au désastre. Mais passé l'effet de sidération, cette cohésion peut se fissurer. Le déplacement de François Hollande sur le site du Bataclan a été désapprouvé sur BFM TV par un consultant de police qui considérait que cela pouvait nuire au travail des enquêteurs. Aujourd'hui, des responsables politiques estiment qu'il faudrait expulser d'office tous les fichiers S étrangers, voire emprisonner préventivement les nationaux, oubliant notre constitution et surtout que l'un des objectifs du terrorisme islamiste est précisément de monter les communautés les unes contre les autres, ce que ne manquerait pas de provoquer une telle décision. D'une manière générale, c'est le niveau de la vigilance qui est mis en cause, ou tout au moins interrogé. Dans La Croix, Flore Thomasset insiste sur la réalité de la menace. Quelques heures avant la fusillade sur le marché de Noël, le député européen Arnaud Danjean, ancien membre de la DGSE et spécialiste des questions de terrorisme, déclarait, devant le Parlement d'ailleurs de Strasbourg, « La tentation existe aujourd'hui de relativiser la menace parce qu'elle est plus diffuse, parce que certaines organisations terroristes ont subi des revers militaires, mais ce serait une grave erreur. » Dans son livre sur les services secrets de Daesh, le journaliste Mathieu Suc estimait qu'il flotte dans l'inconscient collectif comme un air de victoire, faisant allusion aux propos d'Emmanuel Macron qui en décembre 2017 annonçait que la guerre en Syrie serait gagnée en février 2018. S'il est vrai que l'intensité de la menace a baissé au regard du nombre d'attentats déjoués, 17 en 2016, 20 en 2017, 6 en 2018, comme le rappelle Sébastien Pietrasanta, consultant sur le terrorisme, cela ne veut pas dire que le niveau d'engagement des services de renseignement a baissé. Ils étaient persuadés qu'un attentat viendrait. Alors que le terroriste est toujours en fuite, c'est sa personnalité qui pose question, car elle montre que la menace est désormais principalement endogène, même si des tentatives d'envoi de combattants depuis l'étranger persistent, selon une source bien informée. Elle provient moins de djihadistes formés en Syrie que de délinquants de droit commun. Pour Gilles Kepel, dans le Figaro, le terroriste présumé présente des caractéristiques assez communes dans ce milieu, l'hybridation entre le djihadisme et la grande délinquance. C'est le plus souvent la prison qui favorise le phénomène. On touche ici la difficulté éprouvée par notre système carcéral pour gérer le djihadisme afin de maintenir la paix sociale en prison, souligne le politologue qui prévient les islamistes condamnés avant les vagues d'attentats de 2015-2017 vont être libérés rapidement dans la mesure où les peines étaient alors plus légères qu'elles n'ont été depuis. Ils vont se retrouver dans le circuit avec de possibles nouveaux passages à l'acte.